D'être 18h à Niamey, bienvenue au journal en français du studio Kalangou dans une présentation de Rafika Taher. À présent, les titres de ce mercredi 27 janvier 2021, les travaux du 4e échangeur de Niamey ont été lancés ce matin par le président de la République. Le coût de la réalisation de l'infrastructure à trois niveaux est évalué à près de 31 milliards de francs CFA. Un extrait de l'allocution de Mahamadou Issoufou dans ce journal. Rencontre ce matin à Niamey entre les forces de défense et de sécurité du Niger et les médias. L'objectif de ces échanges est d'améliorer les relations entre les deux corps. Et dans la partie magazine de ce journal, nous parlerons de la plateforme police et droits humains, PolyDH, regroupant les 5 pays du G5 Sahel. Le président du Niger, Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin au lancement des travaux d'un 4e échangeur à Niamey. L'infrastructure portera le nom de Ali Seibou, ancien président du Niger. Les travaux de cet échangeur à trois niveaux, situés au rond-point des armées, seront exécutés dans un délai de 26 mois et coûteront 30,8 milliards de francs CFA sur fonds propres de l'État du Niger.
Cet ouvrage fait partie du programme Niamey-Niala. Rappelez-vous, ce programme a prévu 4 échangeurs pour la ville de Niamey. Pendant la durée de mes 2 mandats, 3 échangeurs ont été déjà réalisés. Donc, c'est le 4e que nous venons de lancer. Cet échangeur portera le nom de Ali Seibou. Le président Ali Seibou était un grand chef militaire, mais aussi un grand chef d'État. Il mérite cet hommage. De la même façon que le général Sénou Koundié mérite notre hommage, et c'est pour cela que dans quelques jours, nous allons procéder à l'inauguration du 3e pont qui portera le nom du général Sénou Koundié. Notre pays se modernise, notre pays se transforme, et j'espère que cette transformation se poursuivra même après moi.
C'était les propos du président du Niger, Issoufou Mahamadou, recueillis par nos confrères de la télé Sahel. Les forces de défense et de sécurité du Niger ont organisé ce matin une rencontre d'échange et de visite avec les médias. Et ce, dans le but d'améliorer les relations entre les deux corps dans le contexte sécuritaire fragile que rencontre le Niger, souligne le responsable du réseau de journalistes pour la sécurité et la prévention des conflits. Il précise aussi que cela permettra aux journalistes de comprendre les procédures pour accéder aux informations des FDS. Abdoulaye Abdrahman Amadou au micro de Tarnal Foudey Ahmed.
Ce matin, il a été question des échanges directs entre les deux corporations, les FDS, les forces de défense et de sécurité, et les médias, pour décomplexer, comme je le disais, les relations dans le sens du rapprochement. Donc, c'est aussi surtout de permettre aux journalistes de savoir comment fonctionnent les services d'information et de communication des différentes forces de défense et de sécurité. Et nous avons été édifiés par chacun des corps, mais aussi quelles sont les voies et moyens, les procédures à suivre par les journalistes afin d'accéder à ces services-là pour éviter beaucoup de complications qu'on a l'habitude de voir auparavant. Les journalistes aujourd'hui qui ont pris part, c'est juste un échantillon. Chacun va encore dans sa rédaction et relayer l'information. Il revient maintenant de la responsabilité des journalistes de s'adresser directement aux services concernés.
En bref, au Mali, une centaine de terroristes ont été neutralisés, une vingtaine capturés et plusieurs motos et matériels de guerre saisis dans une grande opération dénommée Eclipse, selon le site officiel de l'armée malienne. L'opération a été planifiée et exécutée du 2 au 20 janvier 2021 par les FAMA, Forces armées maliennes et la force française Barkhane. Selon la même source, cette opération avait pour but de pousser l'ennemi hors de ses zones de refuge situées dans les localités de Serma, Boulkessi, Boulsaret et Doni. 6 trafiquants et plusieurs armes de gros calibre, près de 500 000 cartouches petit calibre et 5 motos. C'est la saisie opérée la semaine dernière par la gendarmerie dans la commune de Kau, département de Tchintabaraden, région d'Ottawa. Les détails avec le lieutenant-colonel Soulay Magina, commandant de la 4e Légion de la gendarmerie d'Ottawa. Il est au micro d'Aoublaï Aoussouk.
C'est dans cette semaine que nous avons eu l'information. Nous avons appris qu'il y a à Kau, dans le département de Tchintabaraden, un vendeur d'armes de guerre et de munitions. Lorsque nous sommes rendus sur place, rapidement et sans effusion de sang, nous l'avions appréhendé, ainsi que 5 autres complices, ce qui fait 6 personnes arrêtées. Nous avions saisi une arme lourde de guerre de type 12-7 qui n'épargne ni homme ni véhicule et même les avions, un fusil AK-47, environ 7000 cartouches et une arme de main appelée pistolet automatique et son chargeur qui contient 27 cartouches. En plus, nous avions saisi 5 motos sur lesquelles ils font leur déplacement. Il y a aussi un lot de 500 000 cartouches. Aussi, je lance un appel aux populations pour qu'ils nous appuient dans cette lutte.
Dans une déclaration rendue publique hier à Niamey, le mouvement dynamique citoyen s'est prononcé sur la situation sociopolitique, éducative et sécuritaire du Niger. Une situation jugée incompréhensible par le coordonnateur du MDC, Anas Jibrilla. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Nous nous posons la question pour un pays qui s'est dit indépendant depuis plus de 60 ans, qui aujourd'hui n'arrive pas à mettre terme à des petits bandits qui roulent sur des motos pendant plusieurs années. Et que sur ces mêmes motos, les gens arrivent à massacrer nos forces de défense et de sécurité avec tout l'armada dont ils disposent et avec aussi toutes les forces étrangères qui sont sur notre territoire. L'armée est massacrée pendant un moment. Maintenant, on assiste au massacre des civils. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut cautionner que près de 200 civils sont tués dans l'intervalle de mois partant de cet état de fait? Si vous avez demandé à cette population de ne plus utiliser les motos comme moyen de déplacement dans ces localités, parce que vous voulez au moins les sécuriser, on aurait pu quand même considérer que considérablement, les menaces vont cesser. Sur le plan éducatif également, l'État doit prêter oreille attentive aux revendications des structures syndicales, parce qu'aucun pays ne saurait se développer tant que le pays délaisse son système éducatif.
Ouf de soulagement des habitants des quartiers périphériques de Niamey, Pays-Bas, aéroport et Talagé, après l'arrestation il y a quelques jours du présumé agresseur à la machette, plus connu sous le nom de Mayadda. Il aurait fait plusieurs victimes, dont la plupart sont des femmes, selon Oumarou Souley, un habitant du quartier aéroport proche d'une des victimes. Il se dit soulagé par cette arrestation. Il est au micro de Maman Ada.
Vraiment, je suis très content étant un habitant du quartier aéroport. C'est un grand soulagement avec l'arrestation de cet individu. Que Dieu dévoile les mauvaises intentions des personnes de son genre. Que Dieu nous protège de sa bonté. Pourquoi je suis content de son arrestation? C'est parce que une fois, il a attaqué la femme du petit frère de mon ami. Il s'est jeté sur elle. Il a fallu l'évacuer à l'hôpital. Heureusement, elle a survécu à ses blessures. Il l'a touché à la tête. Vraiment, les forces de l'ordre sont trop pris. Ils font de leur mieux. Ils étaient au courant de Mayadda. On ne sait pas s'il faisait la patrouille. Mais Dieu a fait en sorte que c'est un simple citoyen qui l'a arrêté avant de le remettre dans les mains des autorités. Tout ce qu'on veut des autorités, c'est de mettre hors d'état de nuire ces genres d'individus.
Troisième jour aujourd'hui de la deuxième série de grèves de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique. Ils revendiquent le recrutement sans concours des contractuels au-delà des 15 ans d'exercice. Selon le coordonnateur de la FESES, une rencontre de négociation est prévue demain avec le gouvernement. Amadou Issa Souleymane, joint au téléphone par Nafissa Adamou.
On avait juste demandé la satisfaction d'un certain nombre de points qui sont inscrits dans notre préavis de grève. C'est la question relative au recrutement des enseignants du secondaire et des enseignants contractuels dans la fonction publique. En tout cas, ça fait 6 ans que le gouvernement n'a pas respecté cet engagement. Toujours, nous avons l'avancement au choix de nos camarades titulaires qui a été bloqué depuis 2020. Il y a cette question donc du reliquat BAC 2019 n'est pas encore payé. Il y a aussi 2020 qui est là et bientôt ce seraient les examens donc de 2021. Maintenant, nous sommes dans notre deuxième série de grèves de 144 et nous sommes aujourd'hui au troisième jour.
À la date d'aujourd'hui, est-ce que les autorités vous ont contacté pour une quelconque rencontre?
Ils nous ont touchés, ils ont demandé à avoir une rencontre avec nous et demain, Inch'Allah. Nos attentes, c'est de voir en tout cas nos revendications satisfaites, c'est tout. Si tel n'est pas le cas, en tout cas, nous allons continuer dans la même logique et cette fois-ci en durcissant le temps.
Les agents sous-traitants aussi de la compagnie minière d'Akuta Darlit ont débuté ce matin une grève illimitée avec un service minimum. Ils exigent le paiement des arriérés de salaire et un dédommagement de 5 millions de francs CFA par personne suite à la décision de l'arrêt des activités de la compagnie le 31 mars prochain. Almou Gabdou, secrétaire général adjoint du service sous-traitance de la Cominac, joint au téléphone par le studio Kalangou.
La grève, on a déjà commencé depuis 4h30, donc jusqu'à notre satisfaction. C'est un grève général, mais après on nous a appelé, on nous a donné les gens des services minimum quand même, comme c'est prévu comme ça dans les textes. Hier, on notait avec nos patronats au niveau de l'inspection du travail et on ne s'est pas entendu, donc jusque-là, il n'y a rien de concret. C'est pour cela donc aujourd'hui on a décidé d'arrêter le travail jusqu'à que nos patronats et Cominac vont régler l'affaire entre eux, comme ça, eux, ils nous appellent et on va s'entendre par rapport à ça. Sinon, nous, on ne va pas retourner aller travailler. Donc, nous sommes toujours à l'écoute.
Eh oui, vous êtes bien sur le studio Kalangou. Ne changez surtout pas de fréquence. Retrouvez bientôt nos nouveaux habillages sonores. Studio Kalangou, 5 ans d'activité au rythme du Niger.
Le magazine d'aujourd'hui parle de la plateforme police et droits humains, la PolyDH, une institution qui regroupe les 5 pays du G5 Sahel, à savoir le Niger, le Mali, le Burkina, la Mauritanie et le Tchad. Elle a pour but de faire la promotion des droits humains dans les écoles de police des pays membres. Plus de détails avec Abdelkader Maman, directeur adjoint de l'École nationale de la police du Niger et secrétaire permanent de la plateforme. Il est interrogé par Alassane Kouzi Mahamadou.
Les défis communs aux différents pays, il s'agit de l'intégration de l'enseignement des droits humains dans la formation des policiers. Le besoin de formation, le renforcement de la police de proximité, le terrorisme et le crime organisé.
Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à l'opérationnalisation de cette plateforme?
La plateforme actuellement dispose des textes, un statut, un règlement intérieur. Presque tous les pays membres ont signé leur adhésion. Maintenant, actuellement, on a pu recruter, avec l'appui de l'IDDH, l'Institut danois des droits humains, un chargé de projet qui va aider le secrétaire permanent à faire les activités de la PolyDH.
Quels sont les changements auxquels on peut s'attendre avec cette plateforme droits humains et police?
Cette plateforme intervient dans les écoles de police. Donc, la plateforme va essayer d'intégrer dans les curricula les modules de formation des droits humains et tous les modules pour permettre la promotion des droits humains. Au Niger, déjà, l'enseignement des droits humains a été intégré dans les curricula à partir de 2004. On a fait aussi des guides de poche à l'usage des policiers qui peuvent permettre aux policiers d'avoir les principes du respect des droits humains.
Est-ce qu'il y a un dispositif qui permet justement de faire le suivi, de s'assurer que ceux qui ont appris ces valeurs puissent effectivement les intégrer dans leur quotidien?
Oui, on a ce qu'on appelle les mécanismes de contrôle interne. Donc il s'agit là de voir dans les statistiques fournies par les différents pays quelles sont les différentes formes de violations qui se retrouvent dans les rapports d'activité. Ces violations en droits humains et à la déontologie sont traitées. On arrive à avoir une base de données. On va essayer de voir les écarts par rapport à la formation. Et ces écarts sont transformés en formation, ce qui permet de corriger les erreurs par rapport aux violations des droits humains sur le terrain.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À suivre le forum sur la perception de la COVID-19 par les jeunes au Niger. Une présentation de Alassane Kouzi.
Eh oui, vous êtes bien sur le studio Kalangou. Ne changez surtout pas de fréquence. Retrouvez bientôt nos nouveaux habillages sonores. Oh, Studio Kalangou, 5 ans d'activité au rythme du Niger.